Je suis ravie de vous présenter cette dernière masterclass de la journée aujourd'hui avec Aurore Delestre. Bonjour Aurore.
Bonjour Morgane.
Comment vas-tu?
Ben écoute, très bien. Je suis très très contente de faire cette interview avec toi aujourd'hui.
Je sais que c'est
Je suis
toujours
vraiment
une
ravie.
sortie de zone de confort de faire des vidéos, de parler comme ça, mais je suis ravie que tu challenges tes soft skills aujourd'hui pour faire cette vidéo avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, tu es une jeune entrepreneuse et tu as réalisé des grands changements dans ta vie ces dernières années et les soft skills t'ont aidé à cela. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie?
Bien, eh bien, je suis Aurore Delestre, j'ai 46 ans, je suis pas encore mariée, mais je vis en concubinage depuis maintenant une vingtaine d'années, et j'ai deux enfants, Lisandre et Virgile, qui sont âgés de 14 et 12 ans. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, en fait, en réalité, j'ai beaucoup travaillé, enfin, j'ai fait une longue carrière dans les ventes en tant que commercial et puis manager ensuite, et puis ensuite j'ai transité par les ressources humaines dans des fonctions de recrutement, de formation, de coaching, de développement du potentiel des collaborateurs essentiellement au sein d'une grande multinationale américaine. Et après 21 ans de bons et loyaux services, eh bien, j'ai décidé, alors on a l'impression que ça se fait d'un coup de baguette magique, mais non, ça a été un peu long. Mais en tout cas, en 2022, j'ai décidé de quitter le salariat pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale en tant que formateur, toujours, puisque c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu dans mon métier. Mais plus spécifiquement autour des soft skills, parce que j'ai longtemps attaché d'importance à tout ce qui était attitude et comportement, plus que sur l'aspect technique qu'on appelle aussi communément les hard skills. Et puis également, je me suis lancée un challenge en 2021, bien avant de quitter l'entreprise, où je me suis formée en sophrologie également, vraiment dans cette quête de vouloir retrouver aussi un bien-être, aussi bien pour physique et aussi mental, puisque évidemment, la transition entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est pas fait non plus dans la douceur la plus extrême. Et donc, j'ai eu besoin d'accompagnement à ce niveau-là. Et je me suis dit que ce serait super de pouvoir utiliser aussi la sophrologie au profit des soft skills dans mon quotidien. Et voilà, et ça réussit plutôt bien. C'est un bon combo. Donc, je suis très contente de l'avoir fait. Et voilà, ça fait partie des compétences que je rajoute à mon arc et que je peux exploiter et utiliser avec parcimonie en fonction du type de client que je peux avoir en face de moi et que je vais adapter en fonction de si ce sont des particuliers, si c'est des associations ou si c'est plutôt des entreprises. Puisque voilà, en fonction de la réceptivité de chacun, il y a des choses qu'on peut y mettre et d'autres un petit peu moins.
Je trouve ça très intéressant parce que tu as à la fois utilisé les soft skills d'un point de vue pro pour prendre une grande décision d'un point de vue du salariat, d'un point de vue entrepreneurial pour vraiment changer ton projet et d'un point de vue personnel, en fait, finalement, parce que ça s'est aussi accompagné d'un grand bouleversement familial, cette histoire-là, parce que tu as fait une migration, j'allais presque dire, vers le sud, pour quitter la région parisienne, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, effectivement. On a pris la décision. Alors, c'était une décision plus personnelle au départ, mais j'ai réussi à embarquer avec moi ma famille. Mais effectivement, c'était quelque chose qui était dans ma tête déjà depuis 3-4 ans. On attend toujours des échéances type départ en retraite pour prendre ce genre d'initiative. Pour quitter la région d'origine pour aller vers des contrées un peu plus agréables d'un point de vue climatique. Et puis ben là, en fait, le fait de quitter l'entreprise, ben, ça m'a mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, ben, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut le faire. Aussi parce que mes enfants étaient en âge de pouvoir accepter aussi cette transition. Puisque à 10-12 ans, c'est plus facile que quand on a 15-17 ans. Donc voilà, on a fait cette décision-là, on a pris cette décision-là. Évidemment, il y a aussi une organisation autour de ça, puisque il s'avère que moi j'ai quitté mon emploi et je me suis reconstruite ici, mais mon mari, lui, continue ses activités en région parisienne, donc ça demande une vraie organisation familiale et évidemment des concessions qui sont à faire de part et d'autre. Donc c'est un choix de vie, on l'assume. Maintenant, il y a aussi des contraintes à cela, mais en tout cas, on est très content de notre choix. Et j'habite depuis août 2000, je suis perdue dans les dates. Depuis août 2022, j'habite à Uzès, petite ville ducale de 8000 habitants qui est située entre Nîmes et Avignon, dans le Gard.
Je trouve ça très très inspirant parce qu'il y a vraiment, à mon sens, du leadership parce que il a fallu convaincre, il a fallu faire suivre ton environnement sur toute cette, sur tout ce projet-là. C'est vraiment une expérience de vie très complète en termes de soft skills. Est-ce que c'est dans cet univers-là que tu as décidé de rejoindre le programme praticien en soft skills? Ou est-ce que c'était plus lié à ton projet pro? Je ne sais pas.
Alors, il y a. Alors, je pense que déjà, j'ai toujours eu une appétence en particulier. Je pense que intuitivement, mais sans même m'en rendre compte et sans forcément le dénommer comme étant des soft skills, mais je sais que dans toutes les formations que j'ai pu développer dans cette entreprise, où je collaborais beaucoup avec les managers, il y avait des formations que je pouvais mettre en place et à l'intérieur desquelles, systématiquement, je mettais toujours un petit peu. Alors, peut-être que c'est galvaudé avec le mot développement personnel, mais en tout cas, c'était souvent des outils qui permettaient à un moment donné de centrer davantage les gens sur leur attitude, sur leur comportement, plus que sur leur savoir-faire. Et en fait, j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens savent faire. C'est surtout dans la capacité à pouvoir communiquer entre eux. C'est là qu'on peut retrouver parfois des disparités ou des difficultés dans la communication, dans la capacité à transmettre un message ou des choses comme ça. Donc je sais que j'ai toujours été assez attentive à ça. Et à chaque fois dans les formations, j'allais au-delà de ce qu'on pouvait parfois attendre de moi. Et je rajoutais toujours une petite touche qui était en lien justement avec le développement des comportements. Et c'était souvent ce qui était apprécié de la part des apprenants. Et j'adorais ça. Donc, en fait, comme c'était mon truc aussi, c'est là-dedans que j'essayais de trouver aussi ma singularité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, quand j'ai pris cette décision-là, finalement, les soft skills, quand j'ai découvert que ça portait vraiment un nom et qu'il y avait une histoire derrière, et c'est un peu par hasard, parce que je me suis documentée, j'ai acheté des bouquins, etc. Et un jour, je suis tombée sur un des livres de Jérôme. Jérôme Ouarau, et là j'ai commencé à chercher un petit peu et à découvrir ce sur quoi il intervenait, et puis voilà, et je suis arrivée à point nommé, j'ai fait ta rencontre, on a échangé ensemble au téléphone, je me souviens très bien, c'était l'été dernier, et là commençait en fait l'embarquement des premiers praticiens dans l'aventure. Des praticiens en soft skills, et donc ben, ça m'avait beaucoup beaucoup séduit, et je suis rentrée dans le programme, et depuis, ben voilà, ça a commencé en l'année dernière et ça continue, et on va continuer ensemble jusqu'au mois de juin 2024, donc j'en suis très heureuse.
Oui, parce qu'en fait, tu as fait donc le praticien 1, qui est vraiment sur la connaissance de soi, mes soft skills, quoi, quels sont mes soft skills, après ceux des autres, et après le praticien numéro 2, ou comment je mets les soft skills au service de mon projet et de ce que j'ai envie de réaliser. Et là, tu es même allé au-delà, c'est-à-dire que là, tu entres dans le troisième volet de ce praticien, c'est comment est-ce que maintenant je peux diffuser les soft skills, former sur les soft skills, écrire sur les soft skills également avec la rédaction commune d'un ouvrage et en parler en conférence. Donc, félicitations, hein, Aurore, c'est vraiment un beau parcours. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu bah, le top 5 de tes soft skills, vraiment ces soft skills que tu as développés au cours de tes années d'entrepreneuriat, de salariat, mais aussi maintenant en tant qu'entrepreneur et de maman, parce que moi je suis convaincue qu'en tant que maman, on développe énormément de soft skills. Donc voilà, j'écoute ton top 5.
Alors, si je devais en choisir cinq, alors je dirais que là-dedans, il y en a trois qui me sont propres et deux autres que j'avais découvert, notamment lorsque j'ai interrogé mon entourage. Et j'ai voulu aussi les inclure parce que parfois, eh bien, on se fait souvent sa propre auto-évaluation, mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir le regard des autres sur soi. Et souvent, on est très critique envers soi-même. Et c'est toujours intéressant de voir que quand vous interrogez 5, 10, 15 personnes, eh bien, quand vous voyez qu'il y a 90% des gens qui vous disent tous la même chose, vous dites, bon, bah, finalement, c'est bien quelque chose que je maîtrise. Donc, il faut que je puisse en prendre conscience et en faire quelque chose d'une valeur sûre sur laquelle je peux compter et sur laquelle je peux m'appuyer. Alors, je dirais pour ma part la créativité, l'organisation, la rigueur et l'organisation, mais je mets ça un petit peu ensemble, et l'écoute, et enfin, de par l'extérieur, c'est surtout la communication et le leadership, qui sont pour moi en fait les soft skills qui me ressemblent le plus aujourd'hui, en tous les cas que j'active le plus souvent dans mon quotidien.
Je trouve intéressant ce que tu soulignes dans le fait d'aller interroger l'entourage. C'est vraiment un des exercices qu'on vous demande de réaliser dans le programme. Et c'est une sortie de zone de confort. Enfin, moi, pour l'avoir vécu personnellement, c'est vraiment pas facile d'aller voir des gens. En plus, on vous propose vraiment de panacher, c'est-à-dire de pas aller que dans la famille ou que dans le travail, de vraiment essayer de panacher. C'est pas évident d'aller demander du retour sur soi et de l'analyser ensuite, parce que il faut réussir à faire une synthèse de tout ça, de toute cette matière que tu récupères. Comment ça s'est passé pour toi, cet exercice-là?
Alors, j'ai un peu une private joke avec mon entourage parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup fait de développement personnel, c'est déjà des outils que j'avais déjà utilisés dans d'autres circonstances, notamment pour faire. J'avais fait un accompagnement qui était une forme de bilan de compétences, mais de manière collective, avec Switch Collective, pour ne pas la nommer. Sur Paris à l'époque, et ça m'avait quand même. Enfin, il y avait des outils notamment qui étaient plus ou moins communs. Donc, c'était déjà des choses que j'avais faites. Donc, ça faisait sourire mon entourage quand je suis revenue encore une fois pour les solliciter sur ce genre de choses. Ils m'ont dit, ah, voilà Aurore qui est de nouveau en train de s'interroger. Donc non, c'était pas forcément un exercice difficile dans ce cadre-là. Je pense que la toute première fois, ça l'avait été. D'oser, en fait, c'est d'oser aller demander du feedback sur soi, tout simplement parce qu'on pense toujours aussi tomber pas forcément au bon endroit au bon moment, aussi parce que les gens ont une vie et qu'on se dit qu'ils ont certainement d'autres choses à fouetter. Bref, mais ce sont des barrières aussi qu'on se met, hein, qu'on se met uniquement à soi, parce qu'en réalité, les gens, ils sont hyper contents de pouvoir le faire. Et ça permet aussi du beaucoup d'échanger et de se rendre compte que c'est des choses dont on parle peu parce que oui, en société, on a tous plus ou moins un masque où on parle des choses qui à un moment donné nous font du bien, mais parler de soi, c'est jamais quelque chose de très évident. Et le fait d'avoir ce retour-là et de pouvoir après en discuter en disant ah, tu as perçu ça chez moi, raconte-moi, c'était dans quelles circonstances, donne-moi des exemples. Et bah, tout de suite, on arrive à faire des liens, et alors que nous, on ne l'imaginait pas du tout. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment avancer les choses. Cette prise de conscience et cette capacité à l'intégrer et à derrière s'en resservir pour mieux faire après.
Comment est-ce que tu as procédé pour obtenir ces retours? Tu as envoyé des messages, tu as appelé les gens, tu les as vus en vrai? Comment est-ce que tu as procédé pour obtenir ces soft skills? Et justement, tu allais même plus loin, c'est-à-dire que tu demandais aux gens vraiment de justifier ces mots qu'ils avaient choisis. Donc, comment est-ce que tu as fait?
J'avais tout simplement sur WhatsApp parce que c'était le moyen de communication le plus rapide et aussi celui que les gens utilisent beaucoup et qui est assez spontané. Et en fait, tout simplement, j'avais listé mes questions directement avec des bullet points, voilà. Et après, les personnes m'ont fait des réponses, on va dire, spontanées de cette manière-là. Quelques-uns ont utilisé l'email parce que on souhaitait faire des réponses beaucoup plus longues. Mais voilà, en fait, je ne me suis pas trop cassé la tête sur le support. J'y suis un peu allée intuitivement. Et à ma grande surprise, j'ai tendance à vouloir interroger plus de monde pour pouvoir récolter un maximum de messages aussi. Donc c'est vrai que j'ai sollicité 25 personnes et sur les 25, il y en a 18 qui m'ont fait un retour. Mais un vrai retour, c'est-à-dire pas juste trois mots, mais vraiment avec des réponses étayées. Et ensuite, en fonction, quand il y avait des incompréhensions, je revenais vers eux et je leur demandais par téléphone, en leur disant, est-ce que tu as un moment à me consacrer? J'ai besoin de 10 minutes de ton temps pour qu'on discute notamment de ce point-là, de ce point-là, parce que j'ai besoin de creuser et de comprendre deux, trois choses. Et les gens l'ont fait avec beaucoup de plaisir. Et voilà. Et souvent maintenant, c'est un peu quand on sait au téléphone ou ils disent, ah, au fait, t'en es où au niveau de. Ça a donné quoi? Qu'est-ce que t'en as fait? Raconte-nous. Voilà, l'idée aussi, c'est aussi de. Je me rends compte qu'il faut aussi pouvoir partager derrière et savoir. Parce que quand les gens investissent du temps aussi pour vous, c'est quand même chouette de pouvoir aussi leur envoyer l'appareil en leur disant, bah voilà ce à quoi ça m'a servi. Voilà ce que j'ai fait avec tout ça. Et je te remercie. Donc voilà, c'est important de pouvoir donner du feedback aux gens aussi à ce niveau.
Ouais, trop bien. Est-ce que tu as questionné tes enfants?
Oui, je leur ai demandé. J'avoue que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça paraît moins spontané peut-être même parfois qu'auprès de notre entourage proche ou même de nos collègues, de nos anciens collègues ou collègues. Je pense que c'est une espèce de pudeur aussi et que les enfants osent pas de peur de peut-être blesser ou voilà. Mais oui, après mais les soft skills pour eux, enfin les soft skills pour eux, c'était oui maman, tu es une super pâtissière, voilà, ça se résume à ça se résume à des choses matérielles pour eux, hein, plus que le côté comportemental. Donc voilà, mais disons que ça a été très rapide. Voilà, mais ils s'étalent pas trop sur le sujet, à vrai dire. C'est encore un peu tôt pour leur demander ce genre de choses.
Génial. En plus, là, maintenant que tu vas être vraiment dans l'expertise des soft skills, tu vas pouvoir les accompagner vers leurs examens et leur orientation. Tu vas voir, ça va être vraiment très riche pour eux, les soft skills. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre dans ce programme praticien en soft skills? Qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce qui a modifié peut-être un peu ta façon de fonctionner?
Alors, ce que j'ai découvert, ben c'est en fait de pouvoir avoir des choses. Il y a un peu de théorie, mais pas tant que ça. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup d'exercices très pratico-pratiques. Et surtout du test and learn, ce que j'appelle test and learn, c'est-à-dire on essaye et derrière on apprend, et puis après on applique, et on voit dans notre quotidien comment les choses elles agissent. Donc, il y a eu beaucoup de sorties de zone de confort, clairement. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a été toujours accompagnés. Donc, avec toi, Morgane, avec Jérôme, avec tous les intervenants, je pense aussi à Caroline. Et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute et de partage. Et évidemment, avec continue de se suivre au fur et à mesure des sessions et des séances. Et ça, c'est chouette parce que ça, c'est très présent. Et je trouve ça, en termes d'apprentissage, c'est vraiment génial. Et c'est pour moi la clé de la réussite aussi. Et de continuer l'apprentissage dans de bonnes conditions. C'est qu'il n'y a pas de jugement, c'est qu'on est toujours encouragé, il y a beaucoup de compréhension par rapport au planning des uns des autres qui fait que parfois on n'arrive pas toujours à tenir les délais. Mais voilà, mais en tout cas, c'est fait avec beaucoup de bienveillance et de clairvoyance, donc c'est très chouette. Ce que j'y ai découvert, en fait, ben, c'est tout simplement notamment un exercice. Qui est l'exercice de la modélisation, qui pour moi était une vraie découverte. Je ne pensais pas qu'on pouvait tirer autant de bienfaits à partir d'une personne, enfin d'un modèle auquel on pourrait penser pour pouvoir appliquer derrière certains de ces soft skills aux nôtres. Et là, pour donner un exemple, je me souviens que la toute première modélisation, et Dieu sait si je me suis pris la tête. Pour pouvoir la trouver, je sais pas, j'avais l'impression, j'ai mon côté un peu toujours que tout soit parfait, alors je voulais peut-être avoir le modèle, mais il n'y a pas vraiment de modèle en fait, c'est le modèle qui vous correspond à ce moment-là par rapport à ce dont vous avez besoin. Et je sais pas, il y avait Florence Foresti qui revenait tout le temps, je sais pas pourquoi, est-ce que j'avais regardé une émission il n'y a pas si longtemps où j'avais écouté un de ses sketchs à la radio, ou bref. Et en même temps, ça m'a rappelé notamment sa dernière série sur laquelle elle a travaillé, qui s'appelle Désordre. Et j'ai trouvé, en fait, ça m'avait beaucoup émue parce qu'elle s'était vraiment mise à nu sur certains aspects de sa vie, dont on voit qu'une facette, évidemment, le côté comique, mais il y a aussi un côté d'elle un peu plus sombre. Et donc, j'ai voulu creuser davantage sur ce qu'elle a fait, sur sa vie, son œuvre. Et j'y ai trouvé des choses particulièrement intéressantes en termes de soft skills. Notamment une en particulier qui est à la fois la résilience et la capacité, enfin l'agilité aussi qu'elle peut avoir dans le fait de toujours innover, parce que ça fait déjà longtemps qu'elle est dans le métier, et pour autant elle est toujours à la mode, elle est toujours à la pointe, et tous ces sketchs ils vont avec sa vie, et voilà, c'est le thème qu'elle a choisi à travers ça. Mais à côté de ça, elle se diversifie avec cette histoire de série. Voilà, elle ne reste pas campée sur ses positions. Elle essaye de se renouveler, de prendre un peu tout ce qui vient, de beaucoup s'intéresser aussi à ce qui se passe autour d'elle et d'en faire un truc qui parle à tout le monde, à tous les âges, en fonction de la période de la vie qu'on traverse. Et voilà, je trouvais ça plutôt très bien. Donc, je me suis beaucoup inspirée et ça fait partie des choses sur lesquelles ça me guide. Et après, il y avait une autre modélisation que j'avais faite, notamment par rapport à mon projet, justement, par rapport au fait que je souhaite demain lancer des programmes de formation ficelés pour pouvoir ensuite les vendre auprès des entreprises, en l'occurrence. Et j'avais pensé également à Alexandre Dana, qui est le fondateur de l'école qui accompagne les entrepreneurs, qui s'appelle Live Mentor. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a créé sa première boîte au moment où il devait rechercher tout simplement un stage, un premier stage en entreprise. Et il avait tellement la trouille de trouver ce stage qu'en fait, il a dit, bah, plutôt que d'aller chercher un employeur, bah, je vais être mon propre employeur et je vais créer moi-même mon entreprise. Évidemment, ça, tout n'a pas forcément fonctionné comme il l'a voulu. Et il a planté une ou deux boîtes avant d'arriver au succès que connaît Live Mentor. Mais voilà, c'est aussi un exemple de résilience qui fait qu'aujourd'hui, je m'appuie aussi là-dessus pour aussi capitaliser sur ma capacité à me faire davantage confiance, à aller de l'avant, à oser faire des choses, même si on ne les a jamais faites. Le tout, c'est de se lancer. On se rend compte que c'est toujours le premier pas qui est difficile. Et après, finalement, une fois qu'on y est, les choses s'enchaînent et ça se passe bien. Dans 95% des cas, ça se passe toujours très bien.
Complètement d'accord avec toi. C'est jamais facile de choisir qui est-ce qu'on va modéliser. Moi, je vous propose un petit exercice qui est ici, qui s'appelle la réunion dans ma tête. Est-ce que toi, tu avais réalisé cet exercice et est-ce que Florence Foresti était déjà dans ta réunion dans ta tête?
Dans ma réunion, dans ma tête, quand j'avais fait cet exercice-là, j'étais sur un autre projet et là, du coup, j'avais pensé à d'autres personnes. Donc, non, Florence, elle n'y était pas à ce moment-là, mais il y avait notamment, que je me souvienne, il y avait, ah, j'ai un trou de mémoire. Alors, mince, je me
C'est
souviens
hyper
plus.
intéressant parce
Bon, bref,
qu'effectivement, la réunion dans la tête et même la modélisation, c'est vraiment très lié au projet qu'on a derrière. C'est-à-dire que on va pas convoquer dans sa tête les mêmes personnes si c'est l'organisation de ses vacances ou si c'est le lancement d'un programme de formation. Si c'est selon l'enjeu, selon le temps qu'on a à y consacrer, on va pas modéliser du tout les mêmes personnes. Après, comme tu le disais, moi je fonctionne exactement comme toi, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes, je sens qu'ils reviennent, je sens que mon cerveau, il tourne autour, tu vois. Moi, en ce moment, c'est Mozart, je sais pas pourquoi, je joue pas du tout de piano ou de musique, et il me tourne autour. Je vois des infos, des livres, alors qu'avant, il me tournait pas autour comme ça. Donc, je me dis, c'est qu'il y a quelque chose que je dois aller peut-être explorer chez cette personne, creuser dans sa façon de fonctionner. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ben là, tu t'es challengé sur deux, d'ailleurs, sur Florence Foresti et Alexandre Dana. Est-ce que tu as eu l'idée ou l'envie de peut-être aller interviewer Florence Foresti?
J'y ai pensé. Dans le cas de l'exercice, d'ailleurs, sur le praticien, ça fait partie des exercices qu'on nous demande de faire. Donc, c'est une vraie sortie aussi de zone de confort. Et c'est un exercice que j'ai mené, mais à ce moment-là, il s'est trouvé que, aussi d'un point de vue temporel, c'était quelque chose à faire enfin, pour l'été dernier. Et voilà, entre les congés de chacun, etc., c'était un peu compliqué. Je le garde en tête, mais j'avoue que j'ai tellement de choses dans ma tête qu'à un moment donné, il faut que je fasse aussi de la place et j'ai beaucoup des priorités à gérer. Donc, il faut que je me dis que c'est pas pour tout de suite, mais ça ferait partie d'un beau challenge, ouais, que j'aimerais bien réaliser. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir.
Moi, je me suis prêtée à l'exercice une fois. J'avais modélisé Virginie Delalande, par exemple, et je lui ai envoyé, tu vois. Ça peut avoir du sens ou pas pour la personne qui le reçoit, mais c'était une petite sortie de zone de confort, un petit exercice, et c'était plutôt très sympa. Pareil pour les réunions dans ma tête, quand il m'arrive de les publier sur les réseaux, parfois, je me challenge à taguer les personnes si elles sont encore vivantes ou si elles existent, parce qu'évidemment, si je tague Yoda, je ne suis pas sûre qu'il réagisse sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Donc, en tout cas, le praticien soft skills, ce sont des challenges qui vous sortent de votre zone de confort. Clairement, c'était
Ah oui,
plus ou
clairement.
moins simple par proposition qui était faite, mais le but, c'est d'aller chercher les soft skills dans la sortie de zone de confort.
Ah oui, tout à fait. Là, je pense, oui, y a pas mieux. Enfin, là, clairement, j'ai fait des choses en 6-8 mois que je n'aurais jamais faites si je n'avais pas été challengée de la sorte. C'est évident. Tout à fait.
Il me semble que la méthode Viper a aussi assez résonné chez toi pour la concrétisation de ton projet et tout ça. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cet outil t'a vraiment permis de débloquer des choses ou d'avancer sur le projet que tu t'étais fixé?
Eh bien oui, en fait, le Viper, c'est un outil qui permet à la fois de se fixer des objectifs. Et souvent, c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup, alors je dirais pas à l'intuition, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, c'est vrai que je prends un peu les choses comme elles viennent et je programme plus ou moins. Mais souvent, en fait, le travers que ça peut avoir, c'est que je me disperse beaucoup. Et que souvent, sur certaines tâches, je peux vite procrastiner parce que ça m'embête de les faire à ce moment-là. Et du coup, ça reste dans ma tête et ça m'obnubile et ça me pollue. Et après, je ressens évidemment un mal-être parce que le travail n'a pas été fait ou parce que je l'ai encore dans ma tête. Donc, je me dis, tant que je n'ai pas évacué, je ne peux pas avancer sur autre chose. Et le Viper, ça m'a vraiment aidé à me canaliser. Et à me dire, OK, à partir de cette méthode, je me fixe un objectif et à travers cet objectif, il y a une déclinaison de sous-objectifs à l'intérieur de ça qu'on va pouvoir intégrer dans un planning. Et ensuite, de pouvoir derrière trouver de la motivation au quotidien pour pouvoir les atteindre. Et ça passe par un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'avait marqué notamment autour du Viper, c'était le fait d'avoir des rituels. Puisque les rituels, ça permet aussi de rassurer sa tête aussi. Et ça permet de maintenir une vraie discipline. Et ça conditionne vraiment l'état d'esprit. Alors, par exemple, je vais donner un exemple, mais mes rituels au moment où je me lève, ça va être déjà de boire un grand verre d'eau. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui boit peu. Et le fait d'avoir déjà ce grand verre d'eau dans la journée, voilà, c'est la première chose à laquelle je pense. Je me dis, déjà, j'ai rempli la moitié du quota, même si je ne vais pas jusqu'au bout, au moins j'aurais fait ça. Ensuite, c'est de faire de l'exercice pendant 15 minutes, tout type d'exercice en fonction de ce que j'ai envie de faire ce jour-là. Ça peut être 15 minutes de yoga ou 15 minutes de méditation ou 15 minutes de sophrologie, pardon, ou quelque chose d'un peu plus, comme les abdominaux ou les choses comme ça. Enfin voilà. Mais quelque chose qui reste simple, facile à mettre dans un emploi du temps et en même temps qui me fait du bien parce que derrière, au moment où je vais aller prendre ma douche, je me sens dans une autre énergie et je me sens beaucoup, beaucoup mieux pour pouvoir attaquer la journée. Et puis une chose à laquelle c'est des choses auxquelles je pensais pas forcément, mais j'ai toujours aussi un petit mantra que je vais coller sur un post-it sur le miroir de ma salle de bain. Et ben voilà, après le brossage du dent ou entre la crème et le brossage de dents, je vais tout simplement faire allusion à ce mantra. Et en ce moment, par exemple, ça va être mieux vaut fait que parfait. Voilà.
Ouais,
Pour
je l'aime bien
continuer à un moment
celui-là.
donné.
Il me plaît bien celui-là. Mieux vaut fait que parfait. Moi, en fait, moi, j'ai carrément imprimé un sticker sur mon mur de salle de bain. Et c'est La vie n'est pas parfaite, mais elle est fabuleuse. Et je ne suis pas parfaite, mais je suis fabuleuse. Donc,
Ouais,
voilà.
c'est pas mal
Donc,
aussi
je
ça.
pense que ça, c'est intéressant de se mettre effectivement sur. Et toi, tu le changes, du coup, régulièrement, tu changes le mantra. Selon,
Oui.
selon vers où tu veux aller ou selon
Oui.
l'énergie et tout ça. Super idée.
Oui. Là, en ce moment, je suis beaucoup sollicitée pour animer des formations en entreprise sur justement là, je suis sur une période un peu charnière puisqu'il s'agit de la fin de l'année, donc c'est le moment où on fait le bilan de l'année. Donc, j'accompagne les entreprises et les collaborateurs sur leur capacité à des managers notamment à construire des entretiens de performance d'évaluation annuelle. Et donc, du coup, je les accompagne sur comment est-ce qu'on accueille son collaborateur et comment est-ce qu'on aide à préparer son collaborateur à aborder ces sujets-là et ce qu'on y met à l'intérieur. Et voilà, et j'ai un rythme assez effréné parce que je me déplace un petit peu partout en France sur 5 sites différents. Et donc, et je sens que du coup, j'ai besoin à la fois d'énergie et le fait de me lever le matin et de positiver les choses en me lançant un petit défi, en me le répétant plusieurs fois, ben, en fait, ça oblige aussi le cerveau à se mettre dans un autre état d'être. Voilà, juste en le disant à voix haute, il se passe plein de choses. Il faut le tester pour pouvoir le comprendre. Donc, je vous encourage à l'essayer. Mais voilà, tant que ça reste affiché sur un papier, juste on le lit intérieurement, ça n'a pas le même effet que si on le dit tout haut. Et voilà, et se voir le dire sur un miroir, c'est encore plus présent.
Complètement d'accord avec toi. Et là, je reviens à comment il s'appelle Mozart, qui est dans mon univers en ce moment. Mozart composait ses symphonies avec de la synesthésie. Et donc, il utilise beaucoup la multisensorialité, c'est-à-dire il va se mettre à marcher ou il va associer des goûts, des couleurs. Et là, du coup, avec l'exercice que tu proposes, ben, à la fois, on a pris un temps pour l'écrire, on prend un temps pour le lire, mais on prend aussi un temps pour le parler et l'entendre. Et je pense que le fait d'actionner plusieurs sens, ça rentre dans le cerveau par plusieurs canaux et ça le rend encore plus puissant. C'est vraiment. Moi, ce que je propose aux gens avec la pensée visuelle, c'est vraiment de rentrer l'information par plusieurs canaux pour qu'elle soit puissante, quoi.
Tout à fait.
Est-ce que par rapport au lien que tu fais entre sophrologie et soft skills, tu aurais quelque chose peut-être à proposer aux gens qui voient cette vidéo ou un exercice que toi, tu as pratiqué qui t'a aidé vraiment à associer ces deux choses-là? Peut-être.
Eh bien oui, sur une formation, notamment c'était une formation auprès de collaborateurs qui devaient intervenir au sein de leur entreprise sur une formation de formateurs, justement, qui devait justement former des jeunes arrivants dans l'entreprise à leur métier. Du coup, il s'agissait d'une journée sur les techniques d'animation qu'on pouvait leur proposer. Et notamment, il y avait une partie que j'avais intitulée Comment gérer son trac lorsqu'on doit prendre la parole. Donc, c'est pas leur métier, mais à un moment donné, quand on est face à des gens qu'on ne connaît pas, devant un groupe qu'il faut savoir gérer et appréhender, c'était de pouvoir leur donner des petites techniques au début, parce que souvent, c'est les 5 premières minutes qui sont un peu compliquées et après, ça va. Mais pour gérer ce trac-là, ben, j'ai installé à l'intérieur des petits exercices de sophrologie. Donc, il y en avait un qui était un peu plus long, que je leur ai fait faire en groupe en fermant les yeux, ces techniques de respiration et de relâchement corporel, qui va tout simplement ben, descendre sur ce qu'on appelle en sophrologie les différents systèmes, hein, donc à partir de la tête jusqu'en bas des pieds. Donc là, c'était une technique qui était un petit peu plus longue, qui durait 15 minutes. Et puis après, je leur ai dit, étant donné que vous allez être, vous n'allez pas pouvoir forcément appliquer ce genre de technique à vous-même le jour J. En revanche, je peux vous donner une petite technique qui va vous prendre 2-3 minutes, qui est une technique de respiration qui s'appelle la respiration au carré, qui va tout simplement permettre de souffler, c'est-à-dire vider l'air des poumons en comptant mentalement jusqu'à 5. Ensuite, on prend une grande inspire, on compte jusqu'à 5 de nouveau. On retient son inspiration en comptant jusqu'à 5. Et ensuite, on va expirer en comptant jusqu'à 5 et à nouveau bloquer la respiration. Et cette technique-là, la respiration au carré, si on fait ça pendant 2, 3, 4, 5 minutes, on peut le faire autant de temps qu'on veut. Plus on le fait, évidemment, plus ça a des vertus. Plus longtemps on le fait, plus ça permet en fait de tout simplement enlever le stress, clairement. Parce que ça travaille sur le système parasympathique qui va faire qu'à un moment donné, les choses vont se relâcher. Et là, du coup, le stress va partir. Et on gagne aussi énormément en lucidité. Et là, d'un seul coup, on sait exactement quoi faire parce qu'on n'est plus chargé en émotions négatives ou polluées. Donc ça, c'est un petit exercice que je peux leur proposer. Voilà, donc c'est vrai qu'en sophrologie, sur des exercices autour de la communication, ça aide beaucoup, ouais. Effectivement.
C'est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup pratiqué la respiration carrée quand je me préparais au championnat de lecture rapide et de mind mapping. C'est vrai que c'est un exercice qui est très intéressant, qui est facile à mettre en place, qui est visuel aussi parce qu'on visualise ce carré. On est toujours dans le multisensoriel, en fait, je me rends compte, hein, avec ces propositions qui fonctionnent, en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation que quand ça fonctionne, c'est qu'il y a souvent plusieurs sens d'associer. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire là? On est en début d'année 2024. Quels sont tes projets pour l'année ou pour le futur dans ta construction entrepreneuriale, dans tes projets de famille ou dans ce que tu vas faire cette année?
Eh bien, alors le projet évidemment dans lequel je baigne dedans, mais que pour l'instant, comme j'ai commencé mon lancement d'entreprise en mars l'année dernière, donc ça reste encore jeune, mais j'ai déjà, grâce à mon réseau, un certain nombre de missions, donc c'est très très chouette. Donc j'anime en fait des formations et j'accompagne des gens sur certaines thématiques. Donc là, je faisais référence tout à l'heure à l'accompagnement quant à l'entretien individuel de fin d'année pour des managers. Je travaille aussi sur des ateliers de facilitation en entreprise pour justement faciliter la cohésion d'équipe entre pairs. Donc là, par exemple, j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps pour faire un bilan de l'année 2023 et travailler sur les perspectives 2024 avec une entreprise de la région. Et puis de créer aussi une synergie entre parfois des cadres qui ne se comprennent pas toujours, qui ont des points de désaccord, et donc de travailler aussi sur leurs valeurs, sur leur capacité à créer une synergie entre eux. Et bien ça fait émerger beaucoup de choses, et surtout des choses qu'on n'arrive pas toujours à se dire. Donc c'est à la fois un moment de purge et en même temps un moment de construction collectif. Donc c'est hyper intéressant. Donc j'aimerais continuer vraiment mes projets autour de ça. J'aime beaucoup la facilitation pour ça parce qu'à chaque fois il y a des choses nouvelles et c'est quelque chose qu'on fait bien souvent à la carte en fonction du besoin du client. Et c'est pas du copier-coller partout chez tout le monde pareil. Donc c'est ça qui me plaît de faire des choses assez nouvelles et aussi parce que j'aime beaucoup tester des nouvelles choses. Donc dès que j'apprends un truc, j'aime bien le mettre en application. Et si encore faut-il que l'occasion se présente, mais en tout cas de pouvoir le proposer aux clients directement, c'est encore plus chouette. Et c'est ce qui fait aussi à un moment donné ma différence et ma singularité dans l'approche que je peux avoir de la formation auprès des clients. Et puis, côté soft skills, c'est que je voudrais injecter davantage de soft skills là-dedans et de pouvoir tout simplement réfléchir à un parcours, un petit peu en m'inspirant du parcours praticien et maître praticien dans lequel je suis actuellement avec toi et Jérôme. Pour pouvoir déployer un module ou plusieurs modules, en tout cas un programme dans lequel il y aurait ce que j'appellerais des capsules. Mais l'idée, ce serait de faire des modules très courts pour à la fois en présentiel ou en distanciel. Donc c'est là aussi qu'il y a des choses très nouvelles parce qu'à distance, je ne maîtrise pas encore tous les outils. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage et on va continuer à apprendre. Oui, l'idée, c'est de pouvoir faire des formats courts qui soient vraiment très pratico-pratiques, parce que moi, j'ai toujours fait des formations de cette manière-là. C'est-à-dire, c'est bien d'apprendre la théorie, mais il faut savoir aussi la réexploiter derrière. Et le plus rapidement on réexploite, plus vite on s'entraîne, plus vite on est capable de remettre les choses en place. Et c'est comme ça qu'on acquiert les choses et qu'elles durent dans le temps aussi derrière. Et c'est pas juste, je sais le faire en formation, mais après, je m'en lave les mains et j'oublie et je passe à autre chose et je reviens dans mes habitudes qui sont pas toujours les meilleures. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de très pratique, facilement applicable. Donc, il faut encore que je mûrisse là-dessus, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup travailler là-dessus et voilà, et donner l'impulsion que méritent aujourd'hui les soft skills, parce qu'on sait que voilà, les gens, s'ils veulent faire la différence, je pense, dans leur capacité à rebondir d'une entreprise à une autre, du salariat à l'entrepreneuriat et réciproquement. Enfin, voilà, je pense que les soft skills, en fait, ça fait partie de soi. Et plus on en développe, plus on a cette capacité à être agile, à être adaptable dans toutes les situations, et que du coup, des situations qui sont parfois des situations où on a des craintes, on a des peurs, plus on a de soft skills dans son sac à dos, et plus il est facile de dégainer les bons au bon endroit, au bon moment. Et c'est ce qui permet après de gagner en confiance, en assertivité, en capacité à prendre le lead, à aller de l'avant et à avancer dans ses missions de vie, quoi.
Ouais, complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est vraiment la façon de faire dans le programme praticien, c'est on vous donne l'outil, mais on vous propose de le mettre à votre dans votre vie, quoi. C'est-à-dire vraiment de l'expérimenter sur quelque chose qui vous touche, quelque chose qui est de l'ordre de votre projet, pour faire avancer votre projet avec cet outil, pour que vous vous rendiez compte de la puissance, pour qu'après, éventuellement, vous puissiez imaginer le transmettre ou le modifier. Voilà, mais on vous propose vraiment toujours de l'expérimenter sur votre intériorité, en fait. C'est-à-dire, on va pas vous dire, alors toi tu vas modéliser Charlie Chaplin, et puis toi tu vas prendre Nelson Mandela, et puis non, c'est vraiment vous qui devez vous questionner et aller chercher au profond de vous-même ce qui fait sens, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que dans ce que tu proposes aussi, c'est de mettre l'humain au centre de ses décisions aussi, quoi, et d'être acteur de ses apprentissages et de ses choix, quoi.
Tout à fait.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, savoir un petit peu comment évoluent tes projets?
Bien, tout simplement, pour le moment, vous pouvez me retrouver soit par email directement, soit via LinkedIn. Et puis également, j'appartiens à un collectif qui est la SCOPE Mines de Talents, qui est situé à Alès, dans le Gard. Voilà, on peut directement en tapant mine de talent, rubrique entrepreneur, et là on va retrouver ma page profil avec mes coordonnées et tout ce qui va bien. Mais LinkedIn, ça paraît évidemment tomber sous le sens par rapport à cette activité.
Eh bien, génial, on va
Tout
mettre tout
simplement.
ça dans la description de la vidéo. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose avec laquelle tu as envie que les gens partent de cette vidéo que tu as fait avec moi ce matin?
Allez, je vais tout ce qui me vient là tout de suite là maintenant, c'est un peu ce sur quoi, sur le chemin dans lequel je suis déjà depuis quelques temps et que je continue d'investiguer. Mais j'ai l'impression que si j'y suis toujours, c'est parce que je m'y sens bien, même si je suis toujours un peu dans l'inconfort. Mais c'est la phrase de Gandhi qui est sois le changement que tu veux en ce monde. Voilà, tout simplement pour utiliser cette métaphore pour expliquer que le changement, il passe par soi d'abord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre des autres tout simplement que les choses changent. C'est chacun à notre niveau, on peut aussi activer des choses. Et c'est que comme ça que les choses changeront aussi autour de nous. Donc voilà, changeons-nous nous-mêmes. Modifions des façons de faire et il se passe, on peut avoir des vraies révélations et il faut croire en soi. On a tout en soi déjà. Il n'y a plus qu'à aller les activer, à cliquer sur le bouton.
Complètement. Et en plus, le bouton, il est juste en dessous. Il est pour s'inscrire au programme praticien en soft skills et activer vraiment toutes ces soft skills qu'on a en nous. Vraiment génial, Aurore. Merci beaucoup pour ce moment en ta compagnie. Je sors de là pleine d'énergie. Je suis ravie. Vraiment, vraiment super inspirant. Je vous remercie, vous aussi, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager, à commenter si vous en avez l'envie. Belle journée. Au revoir.
Au revoir, Morgane.